François Hollande dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
15h03, il est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour là-bas si j'y suis.
Hier, quelle rigolade pendant une heure. Ah, j'en ris encore. Vraiment, Antoine Ruffin, il est bon. Allez, salut.
Bon, je viens d'écouter ton émission, Daniel, sur la dynastie Parizeau. Je suis hors de moi. Je ne décolère pas. Il n'y a donc aucun moyen de les empêcher de poursuivre leur action de nuisance. C'est révoltant, car ils sont intouchables, tant leur fric et leur appui leur servent de bouclier. Nos indignations sont stériles et misérables, hélas. Et ça risque de durer longtemps, mais merci pour cette émission qui nous a vraiment renseignés et c'est utile. Bon courage et continue.
Bonjour, le second repère d'Abbeville aura lieu mercredi 7 avril et François Ruffin sera avec nous et nous parlerons de la guerre des classes. Venez nombreux au café Le Crofter, boulevard Vauban, à 18h30. On vous attend.
C'est Olivier qui nous appelle de notre petite île française de Mayotte. Charmante petite île, joli petit bout de France où l'on pratique aussi le pogrom. Et oui, hier soir, on était dimanche, le village de Kanikeli, dans le sud de l'île, avec le maire en tête, a décidé d'en expulser tous les enjouanettes, c'est-à-dire les gens de l'île d'Anjouan d'en face, en situation irrégulière, ou même régulière d'ailleurs. Tout le monde y est allé de bon cœur, avec des tambours, et on a visité toutes les maisons, et on a demandé très gentiment, comme l'a précisé le maire, aux gens de partir. Donc voilà, hier soir, c'était... une longue file de gens avec leur matelas et quelques valises qu'on leur a laissé faire, certains même avec leur gazinière sur le trottoir et essayant désespérément de l'emporter rapidement pour pas qu'on leur pique. Voilà, je crois que c'est intéressant aussi de parler des coutumes de ce petit bout de France.
Je voudrais réagir par rapport à l'émission du 31 mars dernier au sujet de la justice et de la charité. La charité étant accusée de conforter une société injuste. Je réagis en tant que chrétien et en tant que citoyen de gauche. La charité est au cœur de notre vie chrétienne et la justice est le fondement d'une politique de progrès social. Il n'y a pas de contradiction entre charité et justice. La charité est pionnière par rapport à la justice. Elle précède souvent une politique de justice sociale. Les sœurs de la charité soignent gratuitement quand la sécurité sociale n'existe pas encore. L'abbé Pierre s'efforce de loger les plus pauvres quand il n'y a pas encore de droit effectif au logement. La charité ne fait pas perdurer un système injuste, elle contribue au contraire à le fissurer. Mais il est vrai que seule la justice sociale peut établir durablement les hommes dans leurs droits et dans leur dignité. Secourir les Haïtiens, c'est un devoir de charité pour tout chrétien et pour tout homme, mais cela ne suffit pas. Cela ne sert à rien si au-delà du secours immédiat, on n'établit pas un système de solidarité internationale si la communauté des nations laisse faire des gouvernements profiteurs et dictatoriaux.
Je voulais simplement relayer l'ensemble des messages et informations passées dans les médias ces derniers jours au sujet de l'expulsion programmée et attendue de Guilherme à Lyon, qui va être reconduit de force en Angola. Alors que ça fait 10 ans qu'il vit en France, qu'il travaille, qu'il a une famille, des enfants. Donc c'est un cas de plus parmi des dizaines de milliers de cas probablement, mais celui-là est assez exemplaire. Se reporter à Libé, Le Monde, etc. ces derniers jours. Manifestation ce soir, 18h, mercredi, place des Terreaux, pour faire pression sur le sympathique préfet Papon. On a la chance d'avoir à Lyon, ancien directeur de cabinet de Sarkozy et futur directeur de cabinet de Sarkozy, d'après ce qu'on lit dans les journaux. Donc homme sympathique et éclairé. Mobilisons-nous, 18h, place des Terreaux ce soir. Salut.
Oui, bonjour, c'est Patrick de Saint-Malo. Voilà, je téléphone pour faire un petit avis à la population. Je suis au RSA depuis pas mal de temps. J'ai voulu rentrer dans le rang et me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Je suis allé donc sur Google, j'ai cliqué sur le premier entrepreneur en haut de page. J'ai eu la surprise qu'on me demande de payer 79 euros pour m'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Je paye comme un crétin. 48 heures après, l'URSSAF devait m'envoyer mon numéro de SIRET que je n'ai pas. J'essaye de retourner sur le site. Je n'arrive pas à retourner avec l'identifiant et le numéro de passe qu'il m'avait donné. Le week-end de Pâques se passe. Je téléphone aujourd'hui à l'URSSAF et j'ai la bonne surprise qu'on me dise à l'URSSAF, texto, que faire la déclaration auto-entrepreneur, c'est gratos. Ça, vraiment, je l'aurais dû me renseigner avant. Mais qu'ils sont au courant qu'il y a des sites malveillants, donc c'est une arnaque. Donc faites bien attention. Quand vous allez sur Google et que vous tapez auto-entrepreneur, le premier, c'est une arnaque. Ils ont tout, le PayPal, le machin, etc. Donc vous payez 79 euros alors que c'est gratos. Et en plus, vous n'êtes, votre dossier n'existe nulle part. Donc faut tout recommencer. Et donc il y a des petits enfoirés qui se font du blé sur des pauvres mecs comme moi qui rament et qui essayent de s'en sortir. Super.
Alors là, je vous remercie pour ces messages, d'abord, chers AMG, mais c'est difficile de vous parler parce que je suis au fond d'un dé à coudre. Je suis au fond d'un dé à coudre à Tokyo. Un dé à coudre qui s'appelle Soirée. C'est un tout petit bistrot, comme il y en a énormément dans le quartier où je me trouve. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de petit bistrot? Ben, on boit, on parle, on chante, et on se retrouve tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Et en face de celui-ci, en face de ce bistrot qui s'appelle Soirée, où il y a une chanteuse qui s'appelle Maya, qu'on va écouter, j'espère, dans un instant. Il y a un autre bistrot que je vais découvrir avec plaisir, qui s'appelle La Jetée. La Jetée, en hommage à Chris Marker. Et c'est un endroit dont j'entends parler depuis des années, où on cultive la culture française, m'a-t-on dit, dans ce qu'elle a de meilleur. Donc c'est là où on va continuer la soirée. Là, on commence la soirée et puis on va continuer à côté à La Jetée. Je suis en train de développer mon langage et ma connaissance du japonais, qui se limitait jusqu'à ce que j'arrive ici à si takeke t'a raté, takaratake. Ça s'arrêtait là. Ma connaissance du japonais s'arrêtait là, mais j'ai appris un autre mot qui est hanimi. Hanimi, ça veut dire voir la fleur. Voir la fleur. Et c'est ce que font les habitants de Tokyo, et je crois bien de tout le Japon en ce moment, voir la fleur. C'est un peu comme chez nous, voir la feuille par en dessous. En plus décent quand même, voir la fleur, c'est au moment de la floraison, vous le savez bien, des cerisiers, c'est le grand moment de l'année au Japon où l'on va admirer les fleurs de cerisiers qui sont roses. Et oui, ici les cerisiers sont roses, on en a quelques-uns en France, c'est des cerisiers qui ne donnent pas de cerises et qui sont roses. Et on va admirer la fleur du cerisier une fois avec les amis, une fois avec les collègues du bureau, une autre fois avec la bien-aimée, et à chaque fois, on picole et on récite des poésies et on fait de la philosophie sur la vie qui est éphémère comme une fleur de cerisier. Voilà, donc un deuxième mot dans mon vocabulaire et puis beaucoup d'autres choses que nous découvrons et que nous vous ferons découvrir prochainement dans la base, si j'y suis, dans ce reportage au Japon, à commencer par Tokyo où nous sommes. Alors vous vous dites, ah, ils ont de la chance. Eh bien, moins que vous, qui aujourd'hui allez vous régaler avec la deuxième partie de la vie de Laurence Parisot par François Ruffin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Le prochain Café Repère de Limoges, c'est ce soir, premier mercredi du mois, mais on change d'horaire et on change de lieu. Ça sera à 20h30 à la salle Maison du Temps Libre, Esplanade Blanqui. On y parlera de la désobéissance civile comme moyen de lutte et aussi certainement de la place à donner aux médias, ainsi que de tout autre sujet que les uns et les autres voudront voir soulever. Alors voilà, à ce soir, 20h30, Esplanade Blanqui. Ciao.
Bonjour, je suis parent d'élève à l'école Gilbert Dru. Et ce matin, ma petite fille de 3 ans et demi me fait remarquer qu'elle ne m'a pas entendu rentrer à la maison. C'est normal, j'ai dormi à l'école. Je me bats avec bien d'autres parents et tout un collectif pour cette famille. Et puis elle me demande, le papa de Gaëlle, il va être libéré? Que dois-je lui répondre?
Je ne sais pas si vous connaissez cette excellente petite publication diffusée gratuitement qui s'appelle « Dans le monde, une classe en lutte » qui est faite par un groupe qui s'appelle Échanger Mouvement. Et je suis tombé sur une brève qui m'a espanté, qui date du 27 décembre 2009. Alors je lis « Un nouveau programme lancé dans l'état de Géorgie, côte sud-est pardon, des États-Unis, demande aux chômeurs touchant des indemnités d'accepter des emplois non rémunérés auprès des entreprises locales qui ont des travaux à proposer. Ces demandes viennent du fait que nombre de chômeurs ont été déjà embauchés par des entreprises et ont commencé à y travailler gratuitement. À la question « Est-ce que les chômeurs doivent travailler gratuitement ?» posée par une revue, 42% des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative. Voilà, c'est formidable, non ? Enfin, voilà, donc de quoi vous plaignez les mecs ? Pourquoi vous voudriez avoir un salaire à partir du moment où vous avez un boulot, alors qu'il y a tant de gens qui n'ont pas de travail ? C'est un peu ça l'idée, non ? Et ça me fait penser à ton film, Daniel, Chomsky et le pouvoir, où Chomsky dit à un moment, sur la fin, que les républicains, y compris Abraham Lincoln, étaient contre le travail salarié, parce qu'ils considéraient que le travail salarié, c'est une forme d'esclavage. Bon, ben, je suis assez d'accord avec ça, au vu de ce qui se passe en Géorgie, au final. Bon, allez, salut à toute l'équipe, et puis bon courage, et puis ne travaillez jamais, comme disait un slogan de 68. C'était Guillaume d'Ariège.
D'après Bernard Guetta, ce matin sur France Inter, la sécurité sociale, nous la devons au général de Gaulle. Aucune réaction dans le studio pour combler les lacunes de M. Guetta. Question. Et si nous devions notre sécurité sociale, M. Guetta, de Morand, Payon, à un parti communiste à 29% et une CGT forte de 5 millions d'adhérents lors des négociations sur le programme du Conseil national de la Résistance.
5 juillet 2005.
Élu et de façon incontestable. La dauphine d'Ernest-Antoine Sellière a raflé les suffrages de plus de la moitié des délégués du MEDEF.
Quand elle était candidate à la présidence du MEDEF en 2005, elle se targuait d'avoir, je cite, « un pied dans l'industrie, un pied dans les services ». Et elle disait « ça devient vexant, mes entreprises cartonnent en mon absence » parce qu'elle était prise par sa campagne électorale, elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses entreprises. La vérité, c'est que moi j'ai regardé les chiffres, la santé des entreprises de Laurence Parisot est sujet à caution.
Madame Laurence Parisot.
Pendant sa campagne, elle a réussi à séduire une bonne partie des patrons. Femme de réseau et d'influence, ultra-libérale, elle prône pourtant le dialogue social.
Quand elle dit que le droit d'aller faire la grève, elle comprend pas. Si elle gagne le SMIG et qu'elle n'a pas de logement, on peut en reparler, quoi.
5 juillet 2005.
Nous prendrons des initiatives pour permettre l'émergence d'un droit du travail modernisé.
Laurence Parisot.
Qui concilie la prise de risque économique et la protection des individus.
Le jour même de son élection, c'est-à-dire le 5 juillet 2005, le matin même, elle a été convoquée au tribunal pour une audience concernant un salarié de l'IFOP, donc l'institut de sondage dont elle est l'actionnaire majoritaire.
Vous êtes en communication avec le MEDEF, Mouvement des entreprises.
Mesdames, bonjour.
Je suis François Ruffin, donc je suis reporter pour France Inter.
Ouais.
Je prépare un portrait de Laurence Parisot.
Et
j'aurais voulu vérifier un certain nombre d'informations parues pour pas qu'il y ait de problème. Donc j'ai cherché à discuter avec elle, mais c'était pas le meilleur jour.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec François Ruffin, Madame la MEDEF, une histoire de famille.
Vous pouvez vérifier.
Flight number 2. Arriving from
Le MEDEF dénonce la journée de grève prévue jeudi. L'organisation patronale s'en prend aux syndicats, notamment à la CGT, accusée de démagogie.
France Info, 17 mars 2009.
Il faut penser aux conséquences économiques de cette journée d'action, explique Laurence Parisot. C'est la présidente du MEDEF.
Il s'agit de dire à quel point nous sommes mécontents de ce qui se passe, inquiets de la situation. Nous pouvons tous dire ça. Est-ce que c'est vraiment utile pour faire face à la situation de le dire ainsi ? Moi, je voudrais qu'on se pose la question du coût pour l'économie d'une telle journée, d'autant plus que c'est la deuxième. Du coût direct, du coût indirect, c'est encore plus dur pour nous de présenter une France attractive en termes d'investissement. Et puis aussi du coût en termes de démagogie, d'illusion créée. C'est une facilité. Je ne crois pas que ça soit une réponse. On reproche beaucoup de choses en ce moment aux chefs d'entreprise. Je voudrais qu'on parle aussi de la responsabilité de la CGT sur la disparition de certaines entreprises, à Marseille par exemple. Il y a une entreprise qui vient de déposer le bilan. Je crois qu'on peut dire merci la CGT.
Eh ouais. Vous n'avez pas honte, non? Vous allez dévaloriser l'image de la France. Est-ce que vous avez une idée, une toute petite idée de ce que ça va coûter à la communauté nationale, à notre économie, à nos entreprises? Bien sûr que non. Vous ne pensez qu'à détruire. Vous ne pensez qu'à hurler. Vous ne pensez qu'à grogner. Un point, c'est tout. Oui, c'est vrai. Madame Parisot a un peu perdu son sang-froid, mais c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on l'aime, Laurence, c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on s'intéresse à elle et à son passé. À son passé, non pas son passé privé, mais son passé familial. Le passé familial d'une très grande entreprise qu'est celle qui fut celle de ses parents et qui continue d'exister. Les Parisot n'ont pas laissé que des souvenirs tellement délicieux dans la vallée de la Nièvre, qui en fait est dans la Somme. On l'a vu hier, où on disait aux petits-enfants, si t'es de passage, on t'enverra bosser chez Parisot. Ouh, dis donc, on le savait pas ça. Alors vous avez les dire, et vous n'avez pas manqué de le dire, mais enfin, quel rapport avec notre Laurence? On ne choisit pas ses parents, toutes ces choses-là ne sont pas héréditaires. Certes, bien sûr, vous avez bien raison, sauf que Madame Parisot, Madame la MEDEF, n'a jamais dénoncé les méthodes employées par sa famille, le management à la Parisot. Au contraire, elle affiche avec fierté ses origines dans l'entreprise. Elle est tombée dedans étant petite, dit-elle dans ce chaudron. Alors, ça nous intéresse parce que c'est un personnage important et qui représente quelque chose de très très important et même de capital, littéralement capital, dans notre pays et dans nos vies et au-delà même de notre pays. Et oui, puisque j'ai dit capital en insistant bien, car c'est ce capitalisme-là et qui est en crise. Rien à voir avec la crise de nerfs de Madame Parisot. Mais enfin, cette crise nous intéresse, celle qui représente le capitalisme, disons l'entreprise en France, nous intéresse, son passé aussi nous intéresse, jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, Madame la MEDEF, une histoire de famille.
À midi saucisson, bonsoir. On va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. Les nouveaux riches sont plus sincères, ils savent mieux s'envoyer en l'air. Voyez-vous, les riches sont des cons, je peux vous le dire, je suis de la maison. Y'a des riches plein les ministères pour organiser la misère. Font en sorte que les gens normaux aient toujours leur compte à zéro. Y'en a plein l'université pour planifier la pauvreté. Pour garder le contrôle du savoir bien au milieu de leur belle mangeoire. Et y'a des riches plein les cimetières. Ils ont des jolies tombes en pierre que les pauvres peuvent même pas s'offrir. Et ça donne pas envie de mourir. Voyez-vous, les riches sont des cons et je peux vous le dire, je suis de la maison. À minuit saucisson, bonsoir. On va vous parler du grand soir. On va vous expliquer pourquoi il faudrait manger les bourgeois. C'est une solution radicale pour un monde un peu moins bancal. On va les faire aux petits oignons, gardez-moi les filets mignons. Voyez-vous, les riches sont des cons, et je peux vous dire, je suis de la maison. Voyez-vous, les riches sont des cons, consultez-moi pour la cuisson.
J'ai demandé un entretien à Parisot parce qu'il venait tous les 15 jours, hein, 3 semaines. Il venait ici et il arrivait à 9h avec sa BM, grosse BM. Donc, dès 8h du matin, je me suis mis ici à la porte en attendant après sa BM. Elle est arrivée. J'ai demandé un entretien qui m'a été refusé. Donc la CGT et la CFDT sont restés devant les bureaux jusqu'à temps qu'ils nous donnent cet entretien. Il nous a insultés en passant et en repassant. Je vais vous ramener un jeu de boules. Il a dit oui, pas de problème, mais on attendra toujours la réunion. On est resté là jusqu'à 5h du soir. Et à 5h du soir, M. Jean-Claude Parizeau voulait partir sans réunion. Donc je me suis mis à plat ventre derrière sa voiture, puisque devant la voiture, c'est la rivière. Devant la voiture, c'est la rivière, donc il ne pouvait que reculer pour partir. Donc je me suis mis en dessous pour pas qu'il recule. Et c'est de là où on a obtenu une réunion pour le 22. On était vers le 14 par là.
Donc ça a négocié pendant longtemps pour qu'il puisse faire marche arrière
Ça a négocié au moins pendant une heure, oui.
Donc vous êtes resté une heure allongé sous les pneus de la voiture
derrière, oui. Finalement, il a accepté un entretien et je lui ai demandé si l'avenir est certain pour les salariés de Parizeau Siège. Et la réponse de M. Jean-Claude Parizeau a été « Monsieur, pour la famille Parizeau, c'est pas une habitude de licencier ses salariés. Et je peux vous garantir à tous qu'il y aura du boulot pour vos enfants et vos petits-enfants. » Il faudrait lui faire rappeler qu'il y a déjà 290 personnes qui ont été licenciées et ce n'est pas encore les petits-enfants. Alors, il faut qu'il arrête ses conneries et nous dire la vérité au lieu de passer son temps à mentir.
Eh oui, témoignage d'un syndicaliste de chez Parizeau, M. Matos, qu'on a rencontré déjà hier et qui ne donne pas une image très, très valorisante de l'entreprise familiale Parizeau. Alors, on va essayer de situer un petit peu ça, ce monde de la famille Parizeau, ce monde du patronat d'ailleurs en général, parce que après tout, le MEDEF et Laurence Parizeau elle-même sont porteurs d'idées, bien sûr, de valeurs et d'une certaine vision du monde, et ce monde, c'est le nôtre. Voilà pourquoi on rencontre avec François Ruffin Guillaume Delacroix. Guillaume Delacroix, il est l'auteur d'un livre chez Plon intitulé « Enquête sur le patronat », et évidemment sur le patronat et la patronne qui nous intéresse.
Je me trouve en Picardie, et je tombe sur une boîte qui s'appelle Parizeau. Et je me dis, bon, avec un nom comme ça, je pensais que derrière, tout se passait bien. Et en fait, je découvre que le délégué syndical, à partir du moment où il s'est révélé délégué syndical, était licencié 4 fois en 4 ans, qu'il y avait des atteintes permanentes au code du travail, que le temps de pause n'était pas respecté. Et finalement, j'ai vu, c'est un peu l'origine de la fortune de la famille Parizeau, c'est cet empire du meuble, à la fois dans le Doubs et en Picardie.
Ben, c'est une entreprise, un groupe qui s'est constitué par agglomération de plusieurs sociétés. Michel Parizeau a notamment eu l'occasion de reprendre certains actifs de l'Empire Boussac lors de son démantèlement.
Michel Parizeau, c'est-à-dire le père de Laurence Parizeau.
Michel Parizeau n'a pas été le seul d'ailleurs à profiter de la situation, c'est-à-dire que les pouvoirs publics aidaient les actionnaires à se libérer des actifs qui n'étaient pas rentables.
On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le malheur des salariés de l'Empire Boussac-Saint-Frères a fait le bonheur d'abord de Bernard Arnault et ensuite de la famille Parizeau.
Michel Parizeau, par exemple, a racheté une usine dans la Somme. À ce titre-là, il a obtenu de très nombreuses aides. J'ai fait l'addition, hein. Il a eu une subvention publique de 39 millions de francs à l'époque, et puis des prêts consentis par Boussac, c'est-à-dire le cédant lui-même, pour 17 millions. Et la région est venue ajouter son obol à cette opération-là en accordant à la famille Parizeau un prêt de 4,7 millions de francs. Donc finalement, l'entreprise Parizeau, les meubles Parizeau, à l'époque, ont sorti seulement 2,5 millions de francs pour racheter une société qui est devenue l'une de ses plus grosses filiales et qui s'appelle, je crois, maintenant la Société Siège de France. Et donc, quelques années après, il a récidivé avec une autre société.
C'est-à-dire que là, pour 2,5 millions de francs de sa poche, il obtient une entreprise qui vaut sans doute plusieurs dizaines de millions.
Exactement, mais il n'était pas le seul à l'époque.
Donc ça, c'est un accélérateur de richesse pour la famille Parizeau.
Ça a été un accélérateur dans les années 80, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 60, les meubles Parizeau ont bénéficié de ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Donc les Français s'équipaient, achetaient des logements, achetaient des meubles pour leur salon, leur cuisine, et les meubles Parizeau ont un peu surfé sur la vague de cette croissance exceptionnelle pour vendre de plus en plus de meubles aux grandes enseignes de distribution style Conforama ou aujourd'hui Ikea.
C'est curieux ça, hein. On parle des gens qui sont assistés, bande d'assistés. Il ne faut pas assister, c'est mauvais d'assister, parce que ça donne de mauvaises habitudes. Après, on perd le goût de l'effort quand on est assisté. On l'a entendu, ce mot assister. Mais on oublie complètement que beaucoup de nos entreprises, et celles dont nous avons de bonnes raisons d'être fiers, sont très souvent assistées. Les fonds publics s'occupent de ça, ont pour tâche de soutenir les entreprises. Les contreparties sont souvent très faibles, voire même inexistantes, mais c'est quelque chose qu'on oublie quand on parle d'assister et d'assistanat. Alors voilà, un petit aperçu, on va retrouver Guillaume Delacroix pour nous donner des précisions sur ces entreprises, les entreprises de la famille Parisot. Mais revenons un petit peu sur l'ambiance et les conditions de travail dans ces entreprises. Témoignage.
Bonjour.
Excuse-moi de vous déranger.
Monsieur, c'est pas grave.
Vous avez travaillé comme intérimaire chez Parisot.
Oui, mais j'ai pas aimé du tout. T'en rappelles, hein? J'étais pas bien dans ma peau, hein?
Alors vous avez des points de comparaison parce que vous avez fait pas mal d'années d'intérim.
Oui, 16 ans. Et c'est vrai que l'usine ou la pire où j'ai pu aller, c'est bien chez Parisot. J'ai travaillé chez un frère, j'avais quand même le droit d'aller boire un café. Là, chez Norbert d'Entresang, le matin, quand je suis de journée, eh ben, on nous donne 10 minutes pour aller boire un café ou fumer une cigarette. Et l'après-midi, on a Paris.
Tandis que là, chez Parisot, vous n'aviez pas ces 10 minutes-là pour boire un café?
Rien du tout. Rien. Non, du tout. C'était un peu du harcèlement moral, hein, ben. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on criait toujours après les gens, c'était pas normal. J'ai jamais vu ça. Quand je prenais ma voiture, je tremblais le matin pour aller travailler, c'est quand même grave. C'était à l'intérieur, c'est envie de pleurer, même pas arriver à manger le matin, c'était difficile. Hein. Puis j'avais beaucoup maigri, quoi. Pour moi, 8 mois de calvaire.
Quand vous êtes retourné chez Procter & Gamble après Parisot, vous avez respiré là-bas?
Oh, largement. Largement. Vous pouvez rencontrer n'importe qui, que ce soit des chefs ou des ouvriers. On venait vous serrer la main, on vous disait bonjour le matin.
Parce que serrer la main chez Parisot, ça n'arrivait pas?
Ah, du tout. Du tout. Et puis, on a été embauché 15 personnes le 1er septembre.
Après combien d'années d'intérim?
16 ans.
16 ans d'intérim, c'est un record quand même.
Je suis contente pour moi parce que c'est vrai que j'aurais pas pensé qu'à mon âge, j'aurais retrouvé un emploi.
Et quand vous entendez à la radio Laurence Parisot, la vie est précaire, la santé est précaire, l'amour est précaire, pourquoi le travail ne serait pas précaire? Après 16 ans d'intérim, vous en pensez quoi?
Ces gens-là, qu'est-ce que voulez-vous parler avec ces gens-là? C'est des grands patrons, qu'est-ce que voulez-vous? Ils ne regardent pas nous, hein.
Le MEDEF sera toujours là pour vous enfoncer, parce que des pauvres, il en faut aussi. MEDEF, vraiment impopulaire.
On continue. Alors, on a évoqué l'assistanat. Il faut aussi qu'on évoque le risque, parce que ce qui rend légitime, ce qui justifie la réussite et la domination de l'entrepreneur, c'est qu'il prend des risques. Et évidemment, avec cette image, le chef d'entreprise devient une sorte d'aventurier courageux à la barre de son entreprise, pendant que ses salariés s'égayent, vont manifester en braillant. Lui, il est là, et il voit l'horizon, etc. C'est un aventurier. Oui, enfin, sauf que celle qui incarne, qui a été élue par le patronat français, n'est pas tellement une aventurière. C'est avant tout une héritière, rappelons-nous, la marmite dans laquelle elle est tombée toute petite, c'est tout simplement la marmite du pognon, parce que Laurence Parisot est quand même l'héritière du groupe Parisot, premier industriel du meuble en France. Son héritage la place 276e plus grosse fortune française. 276e, bon, évidemment, c'est pas tout à fait en tête, mais c'est quand même pas mal. On retrouve Guillaume Delacroix, auteur de Enquête sur le patronat chez Plan.
Laurence Parisot, c'est quelque chose qui transforme le capital. C'est-à-dire qu'on a d'abord un capital financier, elle en fait un capital social avec des relations au sein du patronat, mais surtout des relations dans les médias. Et on a un capital industriel qui devient un capital dans une société de services. Puisque quand elle rachète l'IFOP, donc au début des années 90, il y a 41% des parts qui sont détenues par son père et il y a 10% qu'elle obtient grâce à des capitaux qui viennent de l'ameublement également. Donc c'est finalement la plus-value de l'ameublement qui est reconvertie dans le rachat de l'IFOP.
Laurence Parisot est plus une héritière qu'une entrepreneuse. Elle est devenue entrepreneur parce qu'elle a eu l'aide financière de la famille et de son père en particulier. Elle a racheté l'IFOP avec les subsides de son père. Et puis, Optimum, elle l'a reçu pour le coup en héritage puisqu'elle en a obtenu les commandes lors du décès brutal de son père en 2002. Donc, Laurence Parisot n'est pas une entrepreneuse au sens créateur d'entreprise. Elle est plus héritière que créateur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle n'est plus chef d'entreprise au sens strict du terme puisqu'elle a quitté début 2020 la présidence de l'IFOP et l'autre société dont elle était présidente, qui s'appelle Optimum, a été vendue.
Ça c'est intéressant, dans la présentation qu'elle a d'elle-même, Laurence Parisot, au moment où elle concourt pour devenir présidente du MEDEF, elle met beaucoup en avant le fait d'être d'abord une petite fille d'industriel, mais aussi d'être industrielle elle-même, puisqu'elle dit qu'elle appartient au monde des PME, qu'elle a cette entreprise dans le sud-ouest de la France, qui fabrique des portes de placard, donc quelque chose d'assez traditionnel, alors qu'en vérité, les salariés de cette entreprise, ils l'ont vu passer deux fois au coup de vent en 5 ou 6 ans, et cette entreprise, elle a failli la couler.
En tout cas, quand elle était candidate à la présidence du MEDEF en 2005, elle se targuait d'avoir, je cite, un pied dans l'industrie, un pied dans les services, et elle disait, ça devient vexant, mes entreprises cartonnent en mon absence, parce qu'elle était prise par sa campagne électorale, elle n'avait pas le temps de s'occuper de ses entreprises. La vérité, c'est que moi, j'ai regardé les chiffres, Optimum allait très mal. Optimum perdait beaucoup d'argent et l'IFOP a des résultats assez erratiques, une année bénéficiaire, une année déficitaire. Donc la santé des entreprises de Laurence Parisot est sujette à caution.
La patronne des patronnes n'est pas forcément la meilleure des patronnes.
La patronne des patrons a du mal d'ailleurs à parler de ses entreprises, ce qui est à mon avis significatif. Et les actifs dont elle est propriétaire par ailleurs, qu'elle a hérité de son père sous forme de société immobilière par exemple à Saint-Barthélemy, c'est un sujet totalement tabou.
Elle dit, moi j'appartiens au monde des PME, les grandes entreprises, ça n'est pas mon univers.
Elle, en tant que chef d'entreprise, elle n'est plus que actionnaire, si je puis dire, de l'IFOP, elle n'est plus présidente. Optimum, elle l'a vendue. Et en revanche, elle est membre de différents conseils d'administration, pour le coup de grands groupes cotés en bourse. Elle siège au conseil de Michelin, elle a siégé dans les instances d'Euro Disney, elle siège à la BNP Paribas, et à ce titre-là, elle touche des jetons de présence lorsqu'elle assiste aux réunions de ces conseils d'administration, donc elle est très proche des grands chefs d'entreprise.
Mais c'est un peu comme si au XVIIIe siècle, il y avait les évêques, les notables de l'Église, et ils se masquaient derrière le petit curé de campagne. C'est si aujourd'hui, le grand patronat avait besoin de se cacher derrière la caution des petites et moyennes entreprises locales inscrites dans leur tissu industriel.
Il y a un effet de mode autour des PME, ça c'est certain. On l'a vu apparaître essentiellement lorsque Jean-Pierre Raffarin est devenu Premier ministre, où le gouvernement flattait la petite entreprise, l'économie réelle, c'était la thématique de la France d'en bas. Et l'organisation patronale qu'est le MEDEF aujourd'hui est complètement dans cette dialectique.
Bonjour William, bonjour à tous. Et oui, avec Laurence Parisot, nous allons parler de cette candidature à la présidence du MEDEF.
France 3, 12 mai 2005.
Car en effet, le MEDEF est une institution démocratique. Les patrons s'élisent entre eux pour élire le meilleur d'entre eux. C'est un peu ça l'idée, Laurence Parisot.
Certainement.
Et vous êtes candidate.
Oui, absolument. Je suis candidate parce que je pense que ma polyvalence, mon expérience de l'entreprise, de la moyenne entreprise et aussi de la très grande entreprise peut apporter beaucoup à cette institution.
Alors, on vous connaît en tant que président de l'IFOP, c'est-à-dire un institut de sondage, mais ce qu'on sait moins, c'est que vous êtes aussi à la tête d'une PME qui se trouve en province, dans le sud-ouest, à Agen, et qui fabrique quoi ?
Qui fabrique des portes coulissantes. C'est une entreprise dont j'ai hérité par mon père. C'est une entreprise performante et bien ancrée dans son territoire.
Là, on ne se trouve plus en Picardie. Il y a eu un choc thermique, puisque je suis parti de la Picardie, il faisait moins 15 degrés. J'arrive maintenant à Agen, je ne sais pas, il fait 10 degrés. Enfin, en tout cas, il y a un soleil éblouissant dehors, donc c'est un vrai choc thermique. Et si on est dans la région d'Agen, c'est parce qu'il y a une entreprise qui appartenait à Laurence Parisot. Vous avez quel souvenir de Laurence Parisot ici ?
Des souvenirs, on ne peut pas en avoir trop, parce qu'on ne l'a pas trop eu. On l'a vu deux fois sur quatre ans. du temps de son père, il disait, quand il passait, il disait toujours bonjour à tous les ouvriers, elle, jamais.
Elle nous semblait toujours pressée quand elle passait dans l'entreprise.
C'était un fantôme, quoi. On la voyait jamais.
C'est un peu surprenant parce que dans son premier discours de candidature au MEDEF, quand elle apparaît pour la première fois comme candidate potentielle, comme candidate à la succession de Ernest Antoine Seyer, et elle apparaît non pas comme la PDG de l'IFOP, mais comme la PDG d'Optimum.
L'abréviation PDG d'Optimum, c'était vraiment pour l'aider à passer au MEDEF, quoi. C'est tout. C'est tout simplement.
C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle ait le titre de PDG d'une boîte industrielle, voilà, pour être acceptée au MEDEF. Et puis elle pouvait venir dire, regardez, moi je représente les petites entreprises, c'est le capitalisme familial, je suis proche des salariés, je suis proche des petits patrons, et ainsi de suite.
Tout à fait. C'est exactement ça. Oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à Optimum pendant ces 4 années, Laurence Parisot? On se dit, l'entreprise a dû connaître de grands succès, puisque c'est quand même la patronne des patrons, ça doit être la meilleure des patronnes qui représente les patrons.
Surtout de grosses difficultés financières déjà. Il y a eu cette personne licenciée. De toute manière, si on n'avait pas été repris par GMS, je pense que la boîte fermée. Hein. Avec un déficit de 780 000 euros, on ne pouvait pas faire autrement. Hein.
Du temps de Parisot, on a cumulé les pertes. Alors là, j'ai les chiffres. Hein. Laurence Parisot arrive en 2002. En 2003, l'entreprise fait l'objet d'un redressement fiscal. En 2004, son résultat, qui était jusqu'alors positif, il est négatif à hauteur de 250 000 euros. En 2005, les pertes triplent. Elles sont plus de 250 000 euros, mais de 780 000 euros.
On pensait bien être licencié d'un jour à l'autre. Hein.
Contrairement à ce qui se passe peut-être maintenant, les nouveaux patrons, les repreneurs, montent l'entreprise vers le haut et il semblerait que cette entreprise soit maintenant numéro 1 en France, déjà sur les portes standards.
Dès que le nouveau groupe a repris, il y a eu une quinzaine d'embauches.
Tous les chefs d'entreprise n'ont qu'une envie, c'est de voir leur entreprise grandir, de la voir se développer.
Laurence Parisot, France 3, 30 août 2007.
Quand on est patron d'une petite entreprise, on rêve d'être patron d'une PME. Quand on est patron d'une PME, on rêve de créer des filiales à l'étranger, de devenir une grande entreprise. Et devenir plus grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire embaucher. Embaucher. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans bien des cas? Embaucher est un risque qui est parfois quasi mortel parce que le coût du travail est élevé et parce que nous avons un environnement juridique mais aussi psychologique qui n'est pas favorable à l'entreprise.
Ben oui, mais voilà, tout simplement. Hein. Mais on se demande d'ailleurs d'où peut bien venir cette défiance envers les patrons dans notre pays. Pourquoi? Alors qu'eux ne pensent qu'une chose. Les patrons ne pensent qu'à créer des emplois. Voilà, ils ne pensent qu'à ça. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien, ça? Eh bien, ils ont contre eux les syndicats. Voilà, vous les entendez un petit peu dans la basse, si j'y suis. Ah, les syndicats qui sont toujours là, en train de demander plus, toujours plus, encore plus. Et puis, il y a l'État. Il y a l'État, ce molosse qui ne pense qu'à leur faire payer des charges.
On s'ouvre là devant la 17e chambre correctionnelle au tribunal de Paris où il va y avoir un face-à-face entre l'UIMM de Devavrin et le MEDEF de Laurence Parisot. Mais ce n'est pas la première fois que Laurence Parisot se trouve devant un tribunal.
Ouais, elle a été devant un tribunal à plusieurs reprises. D'ailleurs, ça la chagrine beaucoup que le grand public le sache. Mais le jour même de son élection, c'est-à-dire le 5 juillet 2005, le matin même, elle a été convoquée au tribunal pour une audience concernant un salarié de l'IFOP, donc l'institut de sondage dont elle est l'actionnaire majoritaire. L'anecdote est amusante d'une certaine manière parce que l'audience avait lieu le jour de l'élection de Parisot et Parisot n'a pas pu y aller par définition puisqu'elle était au CNIT ce jour-là en train de se faire élire par les adhérents du MEDEF.
C'était la femme de ménage de Parisot qui était payée par l'IFOP.
Alors ça, c'est ce qu'on a lu dans la presse. Moi, je n'ai pas eu la preuve de ça, mais il paraît en effet que cette salariée de l'IFOP travaillait pour le compte personnel de Laurence Parisot, mais je ne sais pas si c'est vrai.
Est-ce que le rapport au Code du travail serait aussi un héritage chez les Parisot? Je m'explique. On a à Saint-Loup-sur-Semouse, dans le fief de Laurence Parisot, il n'y a pas de syndicat. Le seul syndicat, c'est un syndicat jeune dans la Somme, dans l'entreprise en Picardie. Une fois qu'il y a un délégué syndical qui milite, il est licencié 4 fois en 4 ans. Dans l'entreprise Fun City, qui a plus de 150 salariés, il n'y a pas de syndicat. Est-ce qu'il y a un rapport au Code du travail qui
qu'il y a un héritage familial.
Manifestement, Laurence Parizeau a un problème avec le Code du travail, parce que c'est la petite phrase d'ailleurs qu'elle a lancée lorsqu'elle s'est présentée comme candidate potentielle à la présidence du MEDEF. C'était en janvier 2005. À l'Assemblée générale de l'Organisation des entreprises, elle dit « La liberté s'arrête là où commence le Code du travail ». Donc, même au sein du patronat, ça a fait du bruit parce que les gens trouvaient qu'elle allait fort. Visiblement, elle a un problème avec ça. Concernant ces entreprises, en effet, les syndicats ne sont pas particulièrement présents. Ça, c'est un signe particulier de Laurence Parizeau.
Là, Laurence Parizeau passe au tribunal parce qu'elle dit « Je n'étais pas au courant de la caisse noire de l'UEMM ». Est-ce que vous pensez qu'elle peut le dire de la même manière ?« Je ne suis pas au courant des pratiques salariales au sein de mes entreprises et au sein des entreprises qui portent mon nom ».
La question posée abruptement comme ça, la réponse c'est non, elle peut pas dire qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans ses entreprises. Mais le discours de Laurence Parizeau, depuis qu'elle est patronne des patrons, comme on dit, c'est le désaccord constructif, le consensus, il faut que tout le monde soit d'accord. Dans les rapports entre l'employeur et le salarié, il faut prévoir des ruptures à l'amiable, comme quand on divorce par consentement mutuel. Donc elle refuse le conflit, mais en même temps elle prône évidemment le démantèlement de la réglementation et du code du travail pour donner plus de souplesse aux employeurs. Mais en tout cas, c'est vraiment sa vision des choses et le libéralisme d'ailleurs qu'elle revendique qui explique tout ça.
France 2, élu et de façon incontestable. 5 juillet 2005. La dauphine d'Ernest Antoine Sellière a raflé les suffrages de plus de la moitié des délégués du MEDEF. Un seul tour de scrutin électronique a suffi. Credo de la nouvelle présidente, moderniser le MEDEF, réconcilier les Français avec l'entreprise et surtout réformer le code du travail.
Nous prendrons des initiatives pour permettre l'émergence d'un droit du travail modernisé.
Après une discussion très houleuse,
France 3, 11 décembre 2007.
Les députés ont adopté cet après-midi en première lecture un projet de loi modifiant le code du travail. Le texte réécrit le code pour le rendre, d'après le gouvernement, plus lisible et plus facilement utilisable.
Donc là, on se trouve dans le hall devant la 17e chambre correctionnelle. On attend les pontes de l'UIMM et du BDF, dont Laurence Parizeau. Et on voudrait demander à Laurence Parizeau aussi... Elle n'était pas au courant du fonctionnement des caisses noires à l'UMM, si de la même manière, elle n'était pas au courant du fonctionnement de ses propres entreprises ou des entreprises qui portent son nom. Donc là, il y a un paquet de journalistes et il y a toujours dans le hall un cordon d'au moins 25-30 gendarmes. Peut-être qu'il va falloir ça pour séparer... les fauves du patronat. Laurence Parizeau arrive devant un cordon de gendarmes.
Oh non, je suis impatiente. Depuis le 8 mars 2008, et j'attends ce moment-là. 8 mars, c'était la journée de la femme, je ne l'oublierai pas.
Madame Parizeau, depuis combien de temps?
Et là, c'est... Madame Parizeau,
vous dites que vous ignoriez les caisses noires à l'UMM et les pratiques de votre entreprise.
Mme Parizeau est rentrée en tribunal sans répondre. Et donc, on comprend a posteriori l'utilité du cordon de gendarme. C'est pour protéger les responsables du patronat.
Ah oui, mais là, il était pressé. Il est terrible, ce François Ruffin. Vous avez vu, il lance une question comme ça, mais il faut qu'elle... Elle n'a pas le temps, Mme Parizeau, de répondre. Les pratiques sociales de l'entreprise, c'est bon... Puis quoi encore. Alors voilà, ça l'a obligé à passer un coup de fil à Phone City, qui est une filiale de l'IFOP.
Phone City, Salper, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je travaille pour France Inter, et oui. Je cherche à joindre M. Pérard.
C'est moi.
C'est vous-même. Alors, j'avais téléphoné la semaine dernière, en fait, et je cherche à avoir le délégué syndical, donc on m'a dit de m'adresser à vous.
Oui, et vous vous appelez pourquoi?
Vous êtes le délégué syndical, donc?
Oui.
Vous étiez plutôt... vous êtes DRH ou responsable du recrutement à Phone City?
Vous avez vos informations, ça, monsieur?
Sur Internet.
D'accord. Donc là, vous avez Pascal Pérard, responsable recrutement. Attendez un instant.
Pouvoir patienter quelques instants.
On parlait de comité d'entreprise, je présume?
Je parle d'un délégué syndical, quoi.
Non, comité d'entreprise, moi, je vais me présenter.
Pardon?
Vous appelez pourquoi, monsieur?
Alors, en fait, je cherche à joindre le délégué syndical de l'entreprise, notamment sur l'usage du CDD qui est fait à Phone City. sur deux points. Je lis sur, sur votre site internet qu'il y a 500 personnes essentiellement en CDD, dont la moitié constitue le noyau dur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes qui sont en CDI ?
Je vais vous passer la direction, ça sera plus simple.
Donc j'appelle un délégué syndical et je suis en contact avec d'abord le service des recrutements, ensuite la direction, mais jamais avec un délégué syndical.
Ne quittez pas.
Et non, mais je cherche à avoir le délégué syndical.
Oui, allô.
Oui, bonjour monsieur,
oui,
excusez-moi
bonjour,
de déranger. Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
Oui.
Et je cherche à joindre un délégué syndical au sein de Phone City.
C'est à quel sujet ? Vous avez monsieur Levieille en ligne, je suis le responsable des ressources humaines.
Eh bien, c'est plutôt un délégué syndical que je cherchais à avoir. Mais...
D'accord, parce que je ne vais pas en avoir dans nos locaux là aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre un message ou...
Ben, en fait, donc, je cherchais à savoir un peu, j'ai vu avoir quelques informations précises. Sur votre site internet, j'ai vu marquer 500 personnes essentiellement en CDD, oui, dont la moitié constitue le noyau dur de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire que sur ces 500 personnes, il y a combien de CDI ?
Nous sommes une dizaine de permanents, en fait.
Donc il y a 10 permanents et le reste, pour arriver à 500,
ce sont des vacataires.
Des contrats précaires, donc.
Voilà, tout à fait.
J'ai lu que votre entreprise avait été condamnée pour recours abusif au CDD et pour licenciement abusif.
Oui.
Donc c'était... éventuellement, j'aurais bien voulu avoir un délégué syndical pour discuter de cette affaire, quoi.
D'accord. Bah, écoutez, je prends vos coordonnées, on vous rappelle.
D'accord. Bah, voilà. Écoutez, je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, monsieur.
Ce matin, Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, a espéré que le CPE sera rapidement mis en œuvre. Elle a également apporté son soutien à Dominique de Villepin.
France 3, 7 mars 2006.
Saluant le choix courageux, je la cite, du Premier ministre pour combattre le chômage des jeunes. On l'écoute.
Je trouve qu'il n'est pas non plus raisonnable d'exiger une suspension ou un retrait du CPE avant de discuter. Soyons quand même un peu raisonnables dans notre pays. Ce dispositif a été voté par la représentation nationale. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des inquiétudes, discutons. Et puis ensuite, chacun, dans sa responsabilité qui lui est propre, pourra en tirer les conséquences. Mais je crois qu'aussi cette logique de rapport de force n'est pas une logique très constructive.
Était. Le contrat première embauche, CPE, était un type de contrat de travail à durée indéterminée à destination des moins de 26 ans prévu par l'article 8 de la loi pour l'égalité des chances. Le mot important là-dedans, c'est « était ». Vous vous souvenez dans quelles conditions ce projet a été replié ? Vous vous souvenez pas ? Bon, ah ben, faut. Vous avez la mémoire très très courte. Et c'est ça qu'on veut. Nous autres, des médias, vous raccourcir la mémoire. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. On a parlé de l'IFOP. Écoutez voir Aline.
Alors là, c'est l'heure de la pause. Aline, ça fait des années et des années que vous pratiquez le sondage.
Oui, et c'est un métier qui, quand j'ai commencé, était vraiment très sympathique. En fait, enfin, j'ai commencé dans le début des années 80, où je faisais des sondages politiques avec une urne sous le bras, et on faisait du porte-à-porte, les gens vous répondaient, vous payez à manger, un verre.
Ah, vous avez travaillé pour l'IFOP, mais oui, pas que pour l'IFOP.
Quand on est vacataire, on a plusieurs sociétés de sondage. Moi, j'ai travaillé pour la Sofres, pour Louis Harris, pour... C'est des contrats à durée déterminée, mais sur 2, 3, 4 ou 5 jours, ou une semaine, ou 15 jours. Toutes les sociétés de sondage fonctionnent comme ça.
C'est comme pour les boîtes d'intérim, finalement. On est inscrit à plein de sociétés de sondage. On attend qu'une société vous appelle, vous propose un boulot pour 3, 4, 5 jours.
Tout à fait.
Finalement, Laurence Parisot, elle rentre dans les instituts de sondage au début des années 80, un peu comme vous, hein, finalement. Grâce à son père, elle rachète l'IFOP en 1991. Depuis la sortie de Sciences Po, elle a baigné dans ce milieu où la précarité est la norme, finalement, avec les contrats vacataires et tout ça. Et quand on entend ces déclarations sur la vie est précaire, la santé est précaire, l'amour est précaire, pourquoi le travail ne serait-il
pas précaire ? Voilà. Mais il est précaire avec elle, depuis le début. Elle a toujours fonctionné comme ça.
On se dit, finalement, ce système qui était là avant elle dans les instituts de sondage, c'est comme si elle souhaitait, ayant baigné naturellement là-dedans, l'étendre, dire que ça doit devenir la nouvelle norme de travail, cette précarité.
Comme ça, on peut virer plus facilement, c'est plus simple. Les gens sont en CDD, donc il n'y a plus de travail, donc il n'y a pas de prime d'indemnité, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, pour elle, les salariés, c'est de la merde, en fait. Mais bon, elle est née avec une petite cuillère en argent, donc c'est beaucoup plus facile. Quand elle dit que le droit d'aller faire la grève, elle comprend pas. Si elle gagne le SMIG et qu'elle n'a pas de logement, on peut en reparler, quoi. Mais je pense pas qu'elle gagne le SMIG et qu'elle n'ait pas de logement.
Le sens dans lequel va l'évolution du code du travail avec c'est plus les 35 heures, c'est plus 65 ans, tout devient flou. Laurence Parisot qui dit que le SMIC, bon, bah, il faut un SMIC annualisé, il faut plus vraiment un vrai SMIC. Est-ce que ça correspond à votre expérience dans l'univers des sondages?
C'est-à-dire que vous dépassez 8 heures, il n'y a pas d'heure sup. Jamais d'heure sup. Ou les heures après 22 heures. C'est-à-dire que c'est tout bénef pour le patron. Même les heures de dimanche et encore ça. Heures de dimanche, même pas payé à 50%.
Je crois que ce que nous apprennent ces universités d'été du MEDEF, c'est que surtout, il faut partir du réel. N'allons pas vers les utopies, elles sont extrêmement dangereuses. Regardons le réel tel qu'il est. C'est à partir de là qu'on pourra à nouveau créer des choses qui nous mettront sous le charme.
France Inter, 3 septembre 2005.
Mais vous dites aussi qu'il faut rendre le travail plus fluide. Le salarié de son côté, lui, il a envie de stabilité. Alors, vous êtes contre la stabilité, votre interview au Figaro, il y a quelques jours, au début de la semaine, vous disiez que tout était précaire, la vie, la santé, l'amour, et pourquoi pas le travail.
Puisque le mot précarité est un mot à la mode, qui a pour objectif de nous empêcher de réfléchir, j'ai voulu expliquer que la précarité était une loi de la condition humaine. Parce que se dire ou laisser croire à tout le monde aujourd'hui en France que nous pouvons entrer dans un métier, prendre un emploi et le garder quasiment à vie, ça aussi c'est de l'utopie. Ou alors c'est de la fonctionnarisation, c'est proche de l'utopie communiste et on a vu comment elle s'est terminée. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que nous ayons tous l'esprit de mobilité. C'est certainement ça qui nous manque aujourd'hui.
Ok, allez, madame la présidente, on est prêts.
Madame la présidente, oui, alors on est d'accord alors. Hein. Vous vous adressez directement à vos employés, ce sera diffusé sur un écran géant. Hein. Vous allez voir, on a fait quelque chose de très bien, de très chic. Donc de la sincérité, de la sincérité.
Oui, donc j'essaie d'être moi-même, d'être sincère.
Voilà, on peut pas mieux dire.
J'essaie d'être crédible.
J'essaie d'être crédible, quoi.
Voilà,
ok, d'accord. Super, je vous embrasse.
Ok. Bon, on y va ?
Action !
Ok. Bonsoir à tous. L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les trois quarts de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé.
Coupé ! Wow, génial !
J'étais bien ?
Génial ! Super classe ! En vrai, c'est extraordinaire ! C'est vachement bien ! Ouais, c'est ancien !
C'était vraiment très intéressant.
Vous êtes en communication avec le MEDEF, Mouvement des entreprises.
Mesdames, bonjour.
Je suis François Ruffin, donc je suis reporter pour France Inter.
Ouais.
Je prépare un portrait de Laurence Parisot. J'aurais voulu vérifier un certain nombre d'informations parues pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Donc j'ai cherché à discuter avec elle le lundi, mais c'était pas le meilleur jour au tribunal à Paris. Et je voulais
Vous y étiez au tribunal, oui, effectivement. c'était pas forcément le bon moment. Ouais.
Je vais vous poser quelques... Si vous, ensuite, vous pouvez vérifier...
Alors dites-moi, posez-moi toutes vos questions, puis je vais regarder.
Alors, sur l'entreprise Optimum, qui a appartenu à Laurence Parisot directement pendant 4 ans, quand elle arrive en 2002, l'entreprise, elle fait plutôt des bénéfices. En 2003, il y a un redressement fiscal. En 2004, c'est la première année de déficit à hauteur de 249 000 euros. Et l'année suivante, en 2005, ça serait un déficit qui triple, qui est à 780 000 euros. En gros, la boîte est en train de couler. Et que finalement, l'entreprise s'est redressée une fois que Laurence Parisot est partie.
D'accord. Donc,
deuxième interrogation, donc c'est une information parue dans Le Canard Enchaîné. Le jour où Laurence Parisot est élue à la présidence du MEDEF,
Le 5 juillet 2005,
voilà, elle serait poursuivie au prud'homme par sa femme de ménage pour avoir été payée par le biais de l'IFOP, avoir été licenciée de manière abusive, je crois. Enfin, et finalement, ça s'est...
Je vérifie, là, j'ai pas les réponses. Hein. Pour être très franche, je note, hein, je vous rappellerai, d'accord.
Ensuite, elle dit qu'elle a grandi au milieu de l'usine de son père et de ses oncles et de son grand-père. Dans ces usines, elles n'avaient pas forcément bonne réputation. avec un code du travail qui était respecté de manière aléatoire, le temps de pause qui pouvait être inexistant, pas de repos compensateur. Alors à Saint-Loup, il n'y avait pas de délégué syndical pour une grosse entreprise comme ça, c'est un peu surprenant. Dans la Somme, dans l'usine rachetée par les Parisos, le délégué syndical, quand il s'est révélé militant, a été licencié 4 fois en 4 ans. Mmh. Donc, est-ce que Laurence Parisot, qui disait habiter au sein de cette usine, était au courant de ses pratiques salariales? Et est-ce qu'elle les condamne, elle les cautionne? Enfin, qu'est-ce qu'elle en pense, quoi, en gros? Dernière interrogation, enfin, quand elle parle du code du travail et de la précarité, mais est-ce que ça s'appuie sur son expérience personnelle et celle de sa famille?
Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, je vais voir ça aussi, d'accord?
D'accord, très bien.
D'accord.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir.
C'était un reportage de François Ruffin, première diffusion le 18 mars 2009. Merci à José Matos, Catherine Thierry, Aline, Gérard Filoche et Guillaume Delacroix. À lire Laurence Parisot, Une femme en guerre, de Fanny Guinochet, publiée par les éditions L'Archipel en 2008. Et Enquête sur le patronat dans les coulisses du scandale MEDEF-UIMM de Guillaume Delacroix, paru en janvier 2009 chez Plon. Ainsi que le dernier numéro de Fakir, qui consacre un dossier à la face cachée des Parisos. Mais vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Guillaume Roux et Yann Bouillot, réalisation Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde, assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Céline Rouzet. Le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37.
D'une catastrophe à l'autre, de la Nouvelle-Orléans à Haïti, qu'apprenons-nous pour construire l'avenir avec tous? ATD Quart Monde et Radio France ouvrent le débat vendredi 9 avril au studio 104 de la Maison de Radio France, de 18h à 20h. Venez participer à cette rencontre animée par Claire Hédon, en présence d'Eugène Brandt, délégué général ATD Quart Monde, et Jane Birkin, invitée exceptionnelle. En multiplex avec les maisons d'ATD Quart Monde à Port-au-Prince et la Nouvelle-Orléans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
À suivre, le Carrefour de l'Odéon, France Inter, 16h. Vous retrouvez Angélique Bouin pour les informations.
L'homme qui détient toujours un médecin à la prison de la Santé à Paris est considéré comme dangereux. Francis Dorfer, 26 ans, a tué l'un de ses co-détenus en 2003. Il a déjà à son actif 2 prises d'otages. Écoutez Thomas Elbrand, son avocat, joint au téléphone il y a quelques minutes par Nathalie Hernandez.
J'ai des courriers assez récents de lui. Il s'inquiétait notamment de la possibilité de rencontrer certains membres de sa famille et c'était quelque chose qui l'alarmait. Il m'exprimait à chaque fois ses difficultés et son mal-vivre, mais comment être autrement lorsqu'on est incarcéré depuis l'âge de 16 ans et qu'on voit son avenir en liberté, pas avant 2030. Bien évidemment, si on me propose de le rencontrer, si j'en ai la possibilité, j'irai tout de suite si je peux aider. Je le connais vraiment depuis qu'il a 16 ans, je ne veux pas dire que je fais partie des gens qui peuvent peut-être lui parler. Pouvoir apporter, si je peux, ma contribution pour que tout ça se termine dans les meilleures conditions possibles.
Le raid est actuellement sur place et des négociateurs ont entamé une discussion avec le jeune homme qui serait armé d'une sorte de poinçon taillé, semble-t-il, dans un pied de chaise, selon certaines sources policières. Une mise au point, à l'issue du Conseil des ministres, le gouvernement appliquera bien la loi sur la suppression de la publicité sur France Télévisions, c'est ce qu'a affirmé Luc Chatel. Mais le porte-parole du gouvernement ne conteste pas néanmoins le droit à un groupe parlementaire de faire des propositions, allusion à l'initiative de Jean-François Copé qui dit vouloir réfléchir avec des élus au maintien de la pub avant 20h. Il circulait avec un bras dans le plâtre à 190 km/h sur le périphérique parisien. Un motard de 22 ans, récidiviste, a écopé aujourd'hui d'une peine d'un an de prison ferme. La justice relance l'enquête sur la mort de 2 adolescents en 2007 à Villiers-le-Bel. Il circulait en mini-moto et avait été percuté par une voiture de police. C'est un soulagement pour les familles qui avaient fait appel de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur des policiers mis en cause dans cette affaire. À l'étranger, la situation reste très confuse au Kyrgyzstan. Le Parlement est aux mains des manifestants et le parquet général est actuellement en feu. Les affrontements entre forces de l'ordre et membres de l'opposition pourraient avoir fait plusieurs dizaines de morts, selon les services de secours, et l'on ne connaît toujours pas le sort du ministre de l'Intérieur, pris en otage par des manifestants. Il n'a pas demandé pardon, mais estimé qu'un crime ne peut être excusé d'aucune manière. Le Premier ministre russe, Vladimir Poutine, a participé tout à l'heure aux cérémonies de Katyn aux côtés de son homologue polonais, Donald Tusk. C'est une grande première. Katyn, dans l'ouest de la Russie, est le site où furent massacrés en 1940 22 000 officiers polonais par la police politique de Staline. Pendant très longtemps, Moscou a imputé ces crimes aux nazis.
And now.
System Disc.
Silicone ou icône? Je devenais.
Avec Vali. À la limite, je préfère un groupe qui arrive, qui fait 1, 2, 3, 4, qui balance la sauce.
On est bien d'accord. Voilà.
Sur un accord bien crétin.
Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est cheesy.
System Disc, le vendredi, de 22h à 23h.
France Inter, partenaire du Musée des Lettres et Manuscrits. Einstein, Mozart, De Gaulle, Marie Curie, Baudelaire et des centaines d'autres vous attendent à partir du 15 avril au Musée des Lettres et Manuscrits à Paris. Marcel Proust sera à l'honneur pour l'exposition inaugurale qui présentera 160 documents autographes, dont de nombreux inédits du grand écrivain. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter. La différence.
16h03, restez avec nous, l'après-midi se poursuit en musique avec vous Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, mercredi, le jour des enfants, entre autres évidemment, alors c'est l'occasion de vous parler d'un coffret des musiciens avec Mathilde May qui est récitante, elle est charmante de toute façon, et en plus là elle nous parle de musique du Roi Soleil, de Lully notamment, qui fut un de ses serviteurs avec D'Artagnan, qui le défendait à la pointe de son épée. Alors donc c'est un livre-disque publié chez Bleu Nuit Éditeur, et on sait que Lully était ambitieux, qu'il était même méchant parfois, mais enfin il a une grande importance, et on peut entendre son histoire avec quelques petites musiques pour situer le décor.
Giovanni Battista Lully est le fils d'un meunier florentin né le 29 novembre 1632 à Florence. Il a appris à jouer de la guitare avec un vieux cordonnier avant de venir en France comme garçon de chambre au service de Mademoiselle Montpensier, cousine de Louis XIV. Tant par ses dons de musicien que de comédien, il ne tarde pas à devenir le principal serviteur musical du roi. Il se moque de l'épée et des chevaux, préférant les quatre cordes du violon. Les nombreux spectacles et festivités donnés à la cour sont pour lui l'occasion de se faire remarquer. Tout est bon. Les plus belles pitreries sont les plus appréciées. On raconte même qu'il joue du violon dans les cuisines royales en compagnie des domestiques. Quand il prend son archet, le son du violon est si doux qu'il charme tous ceux qui l'écoutent. Les notes s'égrènent avec tant de volupté que le roi lui-même est admiratif. Quelques mois après le ballet de la nuit, Louis XIV le nomme « compositeur de la musique instrumentale du roi ». Lully occupe plusieurs fonctions auprès du monarque. Mime, comédien, chanteur, danseur, tout en se consacrant à l'écriture de ballets de cour. Il compose de nombreuses musiques pour les mousquetaires musiciens, aussi bien des marches militaires comme la marche des mousquetaires que des pièces de divertissement pour la cour telles les trios pour les hautbois des mousquetaires. Violoniste dans le célèbre orchestre de la bande des 24 violons du roi, auquel appartiennent d'ailleurs quelques mousquetaires, Lully devient le partenaire de danse préféré du souverain et son guide dans les ballets de la cour.
Et puis il va tellement bien faire qu'il va chasser tous les musiciens italiens de la cour pour rester seul en lice pour être le maître de musique. Bon, on sait qu'il a étouffé aussi des Français comme Charpentier, enfin bon, personnage douteux du point de vue moral, mais enfin qui a fait beaucoup pour la musique, qui était très admiré, même en dehors de nos frontières. Et puis un jour, le drame.
Depuis quelques années, Le musicien a pris l'habitude de battre la mesure avec une lourde canne. Il martèle vigoureusement chaque temps en frappant le sol avec une grande énergie. Mais il arrive fréquemment qu'il se mette en colère, et cela peut conduire à une fin terrible. C'est ce qui arrive au début de l'année 1687. Alors qu'il dirige son tédéum en l'honneur de la guérison du roi, il donne un fort coup de canne, non sur le sol, mais sur son pied. Quelle souffrance et quelle bêtise! Le pied enfle et la blessure ne cesse de s'aggraver. Aucun médecin n'arrive à stopper l'infection de la plaie. Bientôt un abcès se déclare, puis quelques jours après, c'est la gangrène. Il est déjà trop tard et personne n'arrivera à guérir le colérique Louis, qui meurt le 22 mars 1687. Partout dans les rues, on entend « Baptiste est mort, adieu la symphonie, la musique est finie, déplorons son sort ». Le peuple n'est pas le seul à pleurer la mort de Baptiste, comme l'appelait familièrement la France entière. Le roi lui-même, en 1697, donc 10 ans après la mort du compositeur, confiera que, depuis Lully, aucune musique ne lui avait fait tant de plaisir que la sienne. Alors rappelle-toi la conclusion de cette petite histoire. Fais attention si tu utilises une canne ou un bâton. Et surtout, évite de te mettre en colère.